Voilà mes bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles ce matin et je vous invite avec moi à faire une lecture, peut-être même deux, dans l'évangile de Luc premièrement, le chapitre 6 et au verset 37. C'est une parole qui est sortie de la bouche de Jésus, qui est destinée à ses disciples que nous sommes devenus, et qui malheureusement quelquefois peut nous faire défaut dans le sens où notre vieille nature, nature humaine, appelée communément la vieille nature, mais vous savez qu'elle n'est pas toujours d'accord avec ce que Jésus dit. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, parce qu'il n'y a personne qui au moins se manifeste pour dire « Amen ». Ça veut dire que déjà, vous voyez ce que je vous dis. Je viens de vous le dire que notre vieille nature n'est pas toujours d'accord avec ce que Jésus dit. Et toute bouche est fermée. Donc ça veut dire, ça confirme ce que je viens de vous dire. Donc je le répète, frères et sœurs en Christ, c'est une parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Et quand une parole sort de la bouche de Jésus, l'homme nouveau en nous s'en réjouit. Elle adhère, elle est d'accord, elle se soumet, elle obéit. Mais notre vieille nature, eh bien, n'est pas toujours d'accord avec ce que Jésus dit. Ah, il y a cinq qui ont dit Amen. Ça commence à venir. Ceci pour nous dire, frères et sœurs en Christ, que dans ce cadre-là, vous comme moi, eh bien, nous pouvons connaître des lacunes, et les lacunes demeurant, eh bien, peuvent se constituer comme étant malheureusement, certains obstacles à notre avancement spirituel. Et même si ça n'a l'air de rien, eh bien, laissez-moi vous dire que quelquefois, les conséquences insoupçonnables s'attachent à notre marche comme enfant de Dieu. Et il faut toute la grâce de Dieu pour continuer à combattre, à persévérer, et puis à être utile dans la main du Seigneur Jésus-Christ comme un disciple qu'il a choisi. Et en tant que tel, vous savez, quand Jésus choisit un disciple, au départ, le disciple n'a pas toute la connaissance. Ni vous ni moi n'avons pas toute la connaissance. Mais ce qui est merveilleux, c'est que comme disciple, nous sommes à l'école du maître. Alors, qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui, après avoir été choisi par un maître, va être enseigné, instruit, éduqué, dans le sens d'être utile à son maître, dans un service bien défini. N'est-ce pas? Dernièrement, nous avons vu comment le Seigneur nous a rappelé que nous sommes des soldats, soldats de Jésus-Christ, et puis nous avons fait un parallèle entre le soldat, qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et puis aussi le bon soldat. Il y a le soldat, bon, sa préoccupation, c'est d'accomplir le service militaire, mais le bon soldat, ce qui le qualifie, fort souvent, c'est un engagement. Un engagement avec l'objectif de son utilité, autant pour l'armée, mais aussi pour la nation. Et fort souvent, c'est dans le cadre, eh bien, de l'engagement que les bons soldats, on les retrouve dans l'organisation qu'on appelle à l'armée l'état-major, d'où on sort les cadres et ceux qui vont prendre des décisions qui vont être utiles pour l'organisation et surtout, en temps de guerre. Vous savez que nous sommes dans une guerre. Et nous avons besoin, comme soldats de Jésus-Christ, d'être exercés, parce qu'on n'envoie jamais un soldat au front s'il n'est pas exercé. Lorsque Dieu nous prend en main, il y a ce qu'on appelle à l'armée les classes, mais nous, on l'appellera l'exercice. Et Paul nous rappelle que l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. La piété, pasteur gentil, qu'est-ce que c'est? La piété, c'est l'amour pour les choses d'en haut, qui par le Saint-Esprit va produire en moi de la dévotion pour la pratique. Derrière ce mot dévotion, il y a l'idée du zèle. Mais un zèle, avec intelligence renouvelée, et puis un zèle qui sera agréable à Dieu notre Père. Mais ce matin, d'après la direction donnée par le Saint-Esprit, j'avais dans ma tête, dans mon cœur, c'est le cas de le dire, un projet dans le Seigneur, de partager avec vous un sujet ce matin. Mais comme c'est pas moi qui dirige, l'Église a un chef suprême. Et le chef suprême de l'Église en est en même temps la tête. Et c'est de la tête que nous recevons les directives. Alors moi, j'ai reçu de la tête, qui est Jésus-Christ, la directive de considérer avec vous ce texte de l'Évangile de Luc, le chapitre 6, verset 37. Luc 6, 37, où nous allons entendre de la bouche de Jésus. Nous n'allons pas entendre, mais nous allons lire. Et en lisant, c'est comme si nous entendions ce que Jésus dit. Luc 6, 37, Jésus dit. Qu'est-ce que Jésus dit? Lisez avec moi. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Et puis après, il élargit le champ. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Et puis voici ce qu'il rajoute. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. N'est-ce pas? Et puis il va prendre encore quelques images pour élargir le champ de sa pensée. Il dit aussi, et cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Première question. Deuxième question, en rapport avec la première, ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Réalité, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Puis après, il va dire, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, toi qui as une poutre dans le tien? Et puis il va rajouter avec cette remarque, un mot pour définir celui qui le fait hypocrite. Enlève d'abord la paille qui est dans ton œil et tu pourras dire à ton frère, mon frère, tu as une poutre. Enlève la poutre d'abord qui est dans ton œil et après tu pourras dire au frère. Vous savez, les paroles de Jésus semblent des paroles exagérées, mais elles ne sont pas du tout exagérées. Elles sont très explicites par rapport justement à ce qu'il vient de dire précédemment. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Alors, frères et sœurs en Christ, rassurez-vous, je ne vais pas faire un sondage, voilà le mot, pour pouvoir vous demander ou poser la question, depuis que vous êtes revenu enfant de Dieu, qui n'a jamais jugé? Écoutez, si je faisais ce sondage, ce serait carrément un non-sens par rapport à ce que je vous ai dit en entrée en matière. Vous rappelez ce que je vous ai dit en entrée en matière? Non. Vous rappelez ou pas? Tout à l'heure, je vous ai dit que quand Jésus dit la parole, il y a quelque chose en moi qui voudrait constamment m'amener à faire le contraire. Et il faut toute la grâce de Dieu pour que ce que Jésus dit, d'abord je le comprenne, je le saisisse, je l'accepte, et à partir d'un travail spirituel à l'intérieur, j'arrive, en faisant des efforts, à le pratiquer. N'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible nous rend le témoignage, c'est pour cela aussi que nous devrions nous efforcer de lui être agréable. Bien, alors ceci pour nous montrer que Jésus nous dit de ne pas juger, et puis même vous verrez que dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, verset 1er, Matthieu 7, 1, nous sommes sur le terrain, où ces paroles sont définies comme étant le sermon sur la montagne, où Jésus va s'adresser à ses disciples qui étaient présents, mais aussi il s'adresse en même temps dans l'Écriture à ceux qui sont appelés à devenir ses disciples pour le futur. Un peu comme à nous ce matin. Bien. Et puis, Dans ce cadre-là, frères et sœurs en Christ, d'autres textes de l'Écriture nous appellent à ce moment-là à juger. Alors, comment Jésus dit de pas juger, et d'autres textes me disent de juger. Mais c'est pas compliqué. Nous sommes des enfants de Dieu intelligents. Cela veut dire que dans ce cadre-là, il y a des bons jugements, et puis il y a aussi des jugements qui sont pas bons. Or, s'ils sont pas bons, ils sont mauvais. Par exemple, quand je lis 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 15. Eh bien, l'apôtre déclare que l'homme spirituel, au contraire, il juge de tout et qu'il n'est lui-même jugé par personne. Donc, je suis sur le terrain du bon jugement. Nous sommes d'accord? Bien. Et puis, dans 1 Corinthiens 11, 31, quand nous lui faisons la lecture concernant la Sainte-Seine, eh bien, il est dit que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés par le Seigneur. Ceci pour nous montrer que, fort souvent, le bon jugement que je suis appelé à exercer, au lieu de m'amener à regarder à celui qui est en face de moi, il est destiné à me donner à regarder en moi-même. Est-ce que vous dites amen? C'est pas moi qui l'ai rêvé, c'est l'Écriture. Bien. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés par le Seigneur. Puis, si nous regardons dans la même tranche de pensée, dans 1 Corinthiens 14, au verset 29, dans l'exercice des dons, il est parlé ainsi que deux ou trois au plus parlent en langue et que les autres jugent. Donc c'est un bon jugement, n'est-ce pas? Alors je prends la référence, 1 Corinthiens 14, 29. Regardez avec moi, bien-aimés. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres, donc c'est un bon jugement. C'est un bon jugement. Et quand je lis prophète, je suis pas sur le terrain du ministère de prophète, mais je suis sur le terrain de ceux qui manifestent le don de prophétie, n'est-ce pas? Et puis, dans la continuité, on peut regarder, si vous le voulez, comment est défini l'homme fait dans Hébreux, le chapitre 5, verset 14. Je vous fais avec moi cheminer dans les Écritures, mais ce cheminement a pour but la mise en place du sujet, pour qu'après, nous soyons au rang de ceux qui avons saisi l'importance de poser le fondement, pour qu'après nous puissions bâtir dessus. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait ce matin, que Dieu soit béni. Alors, j'ai dit Hébreux, le chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes, dites avec moi, fait. Alors, les hommes faits, qui sont-ils? Ceux dont le jugement, pardon, est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est. Donc, ça veut dire que l'homme fait a un jugement. Il peut porter un jugement, mais ce jugement, comme je viens de vous dire, il est important à partir du moment où Dieu l'amène à regarder à lui-même. Alors, rassurez-vous, frères et sœurs en Christ. Je ne vais pas faire encore un autre sondage pour demander ce matin où sont les hommes faits. Parce que dans ce cadre-là aussi, vous comme moi, nous avons des lacunes, des tares et des manquements. Et c'est pourquoi, dans la main de Jésus ce matin, nous allons bien ouvrir nos oreilles. Ouvrir nos oreilles et laisser le Saint-Esprit disposer nos cœurs à comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions. Pourquoi? Car c'est après avoir compris ce que Dieu veut que je comprenne, et en m'en faisant une application personnelle, que Dieu pourra maintenant me donner à grandir, non seulement dans sa connaissance, dans l'expérience, mais aussi dans ma vie de piété. Et ce qui pour moi a été par le passé une tare, un obstacle, ou que sais-je, Dieu va me donner ce matin dans ce cadre-là à grandir. C'est ça le développement. Ce développement a pour but, par la grâce que Dieu nous fait, d'aller progressivement, je ne vais pas dire de progrès en progrès, quoique je pourrais le dire, mais à aller progressivement plus loin dans le travail d'affermissement. Parce que dans ce travail d'affermissement, frères et sœurs en Christ, rassurez-vous, jusqu'à ce que nous quittions la terre, il y aura toujours quelque chose à améliorer. Amen. Alors c'est pourquoi ce matin, que personne ne dise, pasteur Gentil pouvait toujours parler, mais moi dans ce domaine-là, je suis arrivé. Ce serait des propos, même si ils sont sur le plan de la réflexion, où malheureusement, notre folie serait proclamée. Oh, même si l'oreille du pasteur ne l'entend pas, si à l'intérieur du cœur c'est une réflexion, ma réflexion dans le cœur résonne dans le ciel devant Dieu dans un vrai tintamarre. Mais qui le dérange? On dit que quand je comprends ce que Dieu me dit, j'adhère et dis, oui Seigneur, dans ce domaine-là, je me reconnais, aide-moi à faire des progrès. Ah, je manifeste de l'humilité, je montre au Seigneur que je m'attends à lui. Donc, nous avons bien mis les choses en place, le bon jugement et le mauvais jugement. Et quand je parle de mauvais jugement, en m'appuyant sur les paroles de Jésus, Luc 6, 37, c'est ce jugement qui consiste à s'exercer, mais avec le but de condamner. Parce que aussitôt nous avons lu, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Absolvez et vous serez absolus. N'est-ce pas? Bien. Alors, frères et sœurs en Christ, nous allons regarder cela de plus près. Et pour cela, allons dans le livre du prophète Zacharie. Et même si ce matin, nous n'avons pas le temps d'épurer. Oh là là, c'est bien dit ça. Épurer, ça se dit ça, oui. Oui, c'est à sa place. Hein. C'est-à-dire épurer, ça veut dire agir pour qu'il n'y ait plus rien. Mais si on n'a pas terminé, voilà, le sujet, eh bien, on n'est pas pressé. Les vacances sont encore loin, donc on pourra continuer dessus. Alors, Zacharie 8, verset 16. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, Jésus est au milieu de nous. Amen. Ah, Jésus est là. Et vous savez, quand Jésus est là, je me sens bien. Alléluia. Quand Jésus est là, je me sens bien. Oh, je suis bien dans la présence de mon maître. Pourquoi? Parce que je sais qu'il me regarde. Non seulement qu'il a les yeux sur moi, il sonde mon cœur, il connaît ma vie. Et puis, surtout, il a vu que je me suis efforcé de respecter sa direction. Et le but de notre rassemblement ce matin, c'est que Jésus soit glorifié. Dans nos cœurs, dans nos vies, dans son Église, au sein de son peuple, parmi ses rachetés, que son nom soit pleinement béni. Merci pour ta présence, mon doux Jésus. Merci pour ton action par le Saint-Esprit. Zacharie 8, au verset 16. Alors, Zacharie 8, 16. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité. Mais il rajoute quelque chose après. Et en vue de un jugement qui doit être exercé à nos portes, mais avec un but dont le résultat est la production de la paix. Hier, nous nous sommes retrouvés dans un moment de partage avec les bien-aimés qui travaillent dans le groupe particulièrement important de l'accueil qui vous place. Et là, à un moment donné, eh bien, le Seigneur nous a conduit sur un terrain spirituel. Et j'ai posé la question à une sœur, mais en posant la question à une sœur, je parlais mais à tous les autres bien-aimés pour pouvoir un petit peu faire sortir cette parole destinée à montrer comment il est important, lorsque nous servons le Seigneur, d'être conduit par le Saint-Esprit. Eh bien, cette question, elle était celle-ci. Ma sœur, est-ce que tu sais ce qui est écrit dans Romains, le chapitre 5, verset 1er. Alors, elle m'a dit, je le sais, pasteur. Alors, elle s'est mise à réfléchir. Elle commence à réfléchir. Et pendant qu'elle réfléchissait, le temps passait. Alors, j'ai dit, écoute, je vais t'expliquer, je vais te le dire, parce que je pense que tu peux réfléchir assez longtemps. Et si nous attendons que tu nous donnes la réponse en réfléchissant, il y a le risque que le temps passe et puis... Alors, ainsi donc, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous devons ou à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et qu'est-ce que ça produit ? Ça produit que dans les épreuves, nous nous réjouissons parce que dans les épreuves, nous attendons l'intervention de Dieu avec espérance. Ça veut dire qu'il est passé sur le terrain de la justification qui amène la paix. Or, je ne peux dissocier la justification dont je suis l'objet, ni de la mort de Jésus-Christ, ni non plus de sa résurrection. Car ce sont deux choses qui me confèrent une garantie irréfutable que personne ne peut ni bouger ni changer, laquelle, pasteur gentil, la mort de Jésus-Christ est la garantie de mon salut. Et la résurrection de Jésus-Christ est la garantie de ma justification d'auprès du Père. Justification qui n'a rien à voir avec la loi, mais c'est la justification qui découle de la grâce dont nous sommes les objets et que nous avons reçue par la foi. Ainsi donc, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que de l'œuvre de Jésus à la croix, eh bien, découle tout ce que Dieu avait préparé pour moi, et que ni la loi, ni ce qui était religieux, ni mon ancienne vie n'a pu me procurer, parce que nous étions ennemis de Dieu à cause de nos pensées. Et le Saint-Esprit dans la bouche de l'apôtre Pierre nous rappelle qu'il y a un principe, eh bien, qui nous retenait, c'est que nous étions semblables à des brebis errantes. Que chacun suivait sa propre voie. Mais ça, c'était avant. Mais maintenant, dira-t-il, vous êtes revenus. Et derrière ce mot revenu, nous sommes sur le terrain de la conversion. Vers le berger, le gardien de vos âmes, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Jugez à vos portes. Et fort souvent, frères et sœurs en Christ, quand je lis de juger à nos portes, vous comme moi, nous avons jugé fort souvent, mais à la porte des autres. Nous sommes champions pour voir les saletés devant la porte des autres et nous négligeons de balayer devant notre porte. Eh bien, il y a, je crois, dans ce dans ça, une maxime humaine dit, avant de balayer devant la porte des autres, balayer devant la porte. Vous avez entendu ça déjà? Mais bien sûr! Nous sommes champions pour voir les ordures devant la porte des autres, mais nous ne regardons pas devant. Mais c'est le principe de notre vieille nature. Écoutez, l'écriture est l'écriture. Voici ce que vous devez. Donc nous sommes placés déjà dans l'Ancien Testament sur le terrain du devoir. C'est un peu comme, après avoir été enseigné, le disciple acquiert de la connaissance et la connaissance lui confère obligatoirement un devoir. Ben oui, j'ai le devoir de faire ce qui m'a été enseigné. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, dans le sermon sur la montagne, quelquefois a pris cette image pour montrer ce qui découlait de la loi de Moïse, mais ce qui désormais aussi devra être la part et le lot de celui qui est devenu son disciple. Vous avez appris que la loi disait, mais moi je vous dis que. L'a-t-il dit ou pas? Mais nous sommes sur le même principe ce matin, en ce qui concerne le jugement. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Or, dans le cadre du jugement, quelquefois, frères et sœurs en Christ, nous connaissons certaines vérités. Mais il y a des vérités que nous ne connaissons pas. Et si je n'ai pas la vérité, ou toute la vérité, pourquoi je vais juger sur une demi-vérité? Erreur. Tromperie. Je ne suis pas sur le bon terrain dans ce cadre-là. Un seul est le juge. Il connaît chaque chose en détail. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand je comprends cela, vous savez ce que je fais? J'empêche ma bouche et ma langue de tourner trop hâtivement. Parce que la langue, vous savez, nous l'avons bien fendue quelquefois pour pouvoir maintenant proférer des paroles dans le cadre du jugement alors qu'on n'a pas toutes les données. Alors que nous avons connaissance de certains aspects de la situation qui nous amènent à juger. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? Dit l'Écriture. Qui es-tu? S'il reste debout ou s'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il restera debout parce que le maître a le pouvoir de l'affermir. Bien. Je vois que vous êtes attentif. Je vois que ça vous êtes concerné. Je vois que vous êtes mobilisé. Alors, on continue. Non? Oui, amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Ça veut dire que mon attitude est pour but la paix, le rétablissement de la paix. Et que, verset 17, que nul en son cœur, dites avec moi, ne pense mal. Mais bien-aimés, nous sommes dans l'Ancien Testament. Hein. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais déjà, le travail du Saint-Esprit consistait à nous laisser ces choses par écrit pour que ce matin, vous comme moi, qui sommes confrontés à la parole de Jésus, ne jugez point. Cela veut dire que ça n'a même pas besoin de sortir de ma bouche. Je ne dois même pas concevoir dans mon cœur. Oh, quelqu'un a dit quelque part que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Ça, c'est humain. Mais dans le cadre du cœur, il y a tellement de choses qui se passent dans le cœur de quelqu'un. Quand je dis cœur, ce n'est pas le muscle hein, qui le fait vivre. C'est celui en lui où on pourrait faire eh bien, vraiment l'image de prendre ce qui est le plus secret, son esprit, enrobé par la partie suivante qui est son âme, et suivi de son corps, esprit, âme et corps. Donc c'est là que se passe, on peut aussi mettre la conscience, enfin, mais c'est à l'intérieur. Ça, les yeux de l'homme ne le voient pas. Mais il y a les yeux de quelqu'un qui le voit. Et ce quelqu'un qui le voit, en même temps, il sonde. Il connaît les pensées. Et la Bible me dit dans l'évangile de Jean, chapitre 2, « Car Jésus n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il sait tout ce qui se passe dans le cœur de l'homme. » C'est beau. C'est merveilleux même. Et que nul, en son cœur, ne pense mal contre son prochain. Et quelquefois dans ce cadre-là, parce que je ne peux pas juger s'il n'y a pas une pensée à l'intérieur. Tout jugement que je porterai sera le fruit d'une pensée qui amènera la réflexion à l'intérieur. Écoutez, laissez-moi vous dire que ce matin, le Saint-Esprit nous conduit sur un énorme chantier où il y aura du boulot, du travail, mais où chacun d'entre nous peut avoir une part active, spécifique, personnelle, mais pour l'utilité commune et pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas le moment de laisser nos yeux, nos paupières s'assoupir. Faut ouvrir bien grand nos oreilles pour entendre ce que notre Seigneur a à nous dit ce matin. Le grand juge, celui qui a été établi juge des vivants et des morts, il est au milieu de nous ce matin. Et il nous dit de ne pas juger. Tiens, ça veut dire que le Seigneur nous enseigne dans un domaine où vous, comme moi, nous avons eu des tares, nous avons eu beaucoup de tares, et dans lequel nous aurons encore des tares. Parce que je vous ai dit en entrant en matière, et je ne vous ai pas trompé quand je vous ai dit ça, que quand Jésus dit une parole, dans ce cadre-là, il y a quelque chose en moi, dans ma vieille nature, qui voudrait constamment m'amener à faire le contraire. Alors quand ça va s'arrêter, pasteur gentil? Eh bien, quand je serai devant les portes de l'éternité. Quand ce qui est corrompu en moi sera amené à la terre. Parce que la Bible me rappelle que ma vieille nature, elle est corrompue dans son entendement. L'esprit qui est en moi a des désirs contraires à la volonté de Dieu. Ils sont opposés entre eux afin que nous ne faisions pas ce que nous voudrions. Mais béni soit Dieu notre Père, qui continue son travail dans nos vies, soit que nous vivions, soit que nous dormons. Vous savez, Dieu va donner à son serviteur Jérémie une direction. Jérémie, mais voici, tu vas descendre dans le village. Alors Jérémie obéit à Dieu, et lorsqu'il descend dans le village, ce jour-là, il a été dirigé vers la maison du potier. Et pour recevoir l'enseignement que Dieu voudrait lui donner concernant son peuple d'Israël, il a vu le potier qui travaillait. Potier quand même. Il y a l'expérience, il y a la connaissance, il y a la dextérité, il y a le maniement de l'argile et toutes les techniques qu'il a acquis pour lui donner d'avoir autant de la connaissance que de la compétence dans ce qu'il fait. Alors si vous me mettez sur un tour avec de l'argile, ni monsieur, faites un vase ou une lampe. Je vais essayer, mais je n'ai ni la technique, ni la connaissance, ni la compétence. Pourquoi? Je n'ai pas appris. Vous me suivez toujours? Bien. Mais ce jour-là, malgré ses connaissances et ses compétences, le vase que faisait le potier n'a pas pris. Comme cela arrive quelquefois à l'argile. Et ce jour-là, le Seigneur, je pense, a mis en échec les compétences du potier pour donner à son serviteur une image de son futur travail, ce qu'il voulait réaliser dans son peuple d'Israël. Ainsi, Dieu dit, comme l'argile est dans la main du potier, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Ça veut dire, le potier, il a une dextérité pour travailler l'argile jusqu'à ce qu'il arrive à accomplir l'ouvrage qu'il s'est fixé d'atteindre. Ce matin, nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes dans la main de Jésus. Et ce texte que nous venons de partager, ce sujet que nous traitons, le Seigneur veut en quelque sorte que nous soyons placés dans sa main pour qu'il nous travaille. Il travaille notre cœur, notre esprit, nos pensées, pour amener en nous ce qui est de son Fils Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, dans ce que nous partageons, eh bien, qui sonde, qui amène véritablement la parole de Dieu dans le cœur, il voit qu'il y a, comme je vous expliquais, un grand chantier. Mais comme le Saint-Esprit ne se décourage jamais, il va travailler, il va travailler, il va travailler, il va travailler. Un peu comme le laboureur, lorsqu'il commence à causer, des fois, le sol est dur.
Mais il continue, 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 il creuse, il enlève la terre, il continue à travailler. Et au moment donné, vous savez ce qui se passe? Tellement le cultivateur, il a creusé, eh bien, on le voit, parce que jusqu'à ce qu'il atteigne le roc, il faut qu'il continue à creuser. Hein. Vous savez, en creusant, il creuse, hop, le trou se fait, hop, il creuse. Et à un moment donné, il a tellement creusé que lui-même disparaît dans le trou. Mais écoutez, c'est le roc qu'il veut atteindre. Eh bien, ce matin, le Seigneur veut creuser dans nos cœurs pour déraciner ce qui s'est installé. Et que personne ne dise, aïe Seigneur, non, ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais c'est pour ton bien. La parole de Dieu frappe sur le vieil homme. Le travail pour amener véritablement ce qui est de Dieu, ce qui est de Jésus à se développer. Encore faut-il que je me laisse faire. Je peux aller plus loin? Oui? Je vous ai dit que Jésus est là. Et dans la présence de Jésus, je ne peux pas jouer au fanfaron. Je ne peux que dire, oui Seigneur, tu as raison. Mais aide-moi. Secoue-moi. Ta parole, Seigneur, s'installe au fond de mon cœur. Car bien souvent, je me suis laissé aller à juger les autres. Et vous savez ce qui va se passer, frères et sœurs en Christ, dans ce que nous partageons ce matin? Le Saint-Esprit, en action, lorsque nous serons confrontés à cela, va nous rappeler ce que Jésus nous dit ce matin. Et après, au lieu que ce soit un flot de paroles qui sortent comme ça, dans la conscience, ça va se réveiller. Claude ne juge pas. C'est pourquoi fort souvent, frères et sœurs en Christ, dans certains aspects de la vie chrétienne, même par rapport à l'Église, vous savez, je suis un frère qui, j'ai entendu tellement de choses, mais béni soit Dieu, je me garde fort souvent de me laisser aller trop rapidement, trop activement à un flot de paroles en rapport à ce que j'entends. J'écoute. Mais même le reproche m'a été déjà donné. Lorsqu'on parle au frère Claude, on dirait qu'il n'a pas entendu. Rassurez-vous, j'ai bien entendu. Mais la grâce que Dieu me fait, c'est de ne jamais être loin de ceux qui se précipitent. J'ai entendu, je monte sur mon cheval de bataille, puis non, s'il vous plaît. Vous voudriez peut-être qu'après avoir entendu, eh bien, ils se mettent tout de suite en action pour faire détruire, combattre, parler. Non. La différence, c'est que quand j'entends, Dieu me fait la grâce d'aller en consultation. Ah oui, j'ai un bureau de consultation et je vais trouver Jésus. Seigneur, tu as entendu? Mais qu'est-ce que tu en penses? Mais il arrive que des fois, le Seigneur ne répond rien. Parce qu'il ne veut pas que je mette ma main de chair, ni vous non plus, hein, dans des choses qui nous ont été rapportées, qui nécessiteraient rapidement que nous soyons déjà dans le jugement, après le jugement, la condamnation, après la condamnation, une attitude de retrait, après le retrait, colporté. Nous faisons un très mauvais travail dans ce cadre-là. Que chacun juge à ses portes, selon la vérité. Écoutez, pendant que je vous parle, il y a une pensée du maître qui me vient. Et cette pensée du maître, elle a un rapport avec ce que les disciples lui font remarquer. Et la question lui est posée, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et fort souvent, nous posons des questions à Jésus parce que nous voulons des réponses. Et ces réponses que nous voulons, même si elles sont louables, mais la réponse de Jésus ne va pas du tout dans notre sens. Ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais voici ce que je vous dis, qui est important que vous sachiez. Mais vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie, la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, c'est des choses que vous devez savoir. Mais il y a des choses que Dieu a fixées de sa propre autorité et qu'il estime ne pas devoir être portées à notre connaissance. Parce qu'il y a assez de choses qu'il nous dit que nous avons du mal à comprendre, à saisir et à pratiquer. Et ce qu'il nous dit ce matin fait partie des choses qu'il veut que nous connaissions. Quoi ? Ne pas juger. Afin que nous ne soyons pas jugés. De ne pas condamner afin que nous ne soyons pas condamnés. D'absoudre afin que nous soyons absous. Et de ne pas voir la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que j'ai une poutre dans le mien. Car si c'est le cas et que je juge, Jésus me place sur le terrain d'un hypocrite. Et l'hypocrite, dans le temps de Jésus, il y avait une catégorie, deux catégories, qui étaient vraiment au rang des hypocrites. C'était une hypocrisie religieuse. Mais cette hypocrisie religieuse avait des répercussions dans leur position dans la société. Le premier, c'était les scribes, ceux qui ont la charge d'étudier les textes sacrés et après de les enseigner aux autres. Et puis les pharisiens qui constituaient une secte religieuse très influente pour l'époque de Jésus. Et ces pharisiens, quoique connaissant la loi de Moïse, en même temps ils étaient très attachés aux traditions des pères, si bien qu'ils substituaient même à l'autorité de la parole de Moïse, la parole de Dieu dans la loi de Moïse, eh bien ils substituaient, en mettant la parole de côté, ils laissaient prévaloir la tradition des pères. Et quand vous lirez chez vous Matthieu 23, vous lirez sept fois que Jésus les censure avec le mot « Et vous, pharisiens, scribes, hypocrites. » Sept fois. Ça veut dire qu'ils étaient dans le couplet, le summum de l'hypocrisie. Mais ce matin, Jésus me rappelle, Claude, ne sois pas au rang des hypocrites. Et je viens de vous dire, frères et sœurs, puisque quand un temps soit peu, cela pourrait remonter dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'interpellera pour me dire, Claude, n'agis pas comme un hypocrite. Regarde d'abord devant ta maison. Et quand je dis devant ta maison, c'est là-dedans. Mon cœur. Ton cœur est-il pur? Est-il propre? Nous sommes frères et sœurs en Christ. En plein temple. Je parle pas ici, hein. Là, nous sommes à l'église, mais là, nous sommes dans le texte de l'évangile de Jean, chapitre 8. Nous sommes en plein temple. Et Jésus est en plein enseignement. Et que s'est-il passé ce jour-là? Mais voici que certaines personnes sont venues amener vers Jésus une femme. Et puis, leur déclaration, elle est celle-ci. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse, dans la loi, a ordonné que nous lapidions de telles femmes. Et puis, ils ne se sont pas arrêtés là, se sont adressés maintenant à Jésus. Toi donc, que dis-tu? Inconsciemment, ils sont déjà en train de juger Jésus. Et vous remarquerez qu'ils sont en train déjà de juger Jésus avant même que Jésus n'ait rien dit. Parce qu'ils s'appuyaient sur les textes sacré, pour essayer de surprendre Jésus-Christ en flagrant délit de transgresseur de la loi. C'est ce qu'il poursuivait. Vous voyez que Jésus n'a jamais pris leur direction, mais il a soustrait son regard au leur.
Et puis voici que Jésus se baisse et il écrit sur la terre. Puis lorsqu'il se lève, vous connaissez la suite du récit, en se levant, les yeux sont sur Jésus, il s'est levé. Mais dans les cœurs à l'intérieur, ça travaille. On attend. Ce jour-là, certains d'entre eux ont dit, aujourd'hui, il ne peut pas échapper. Aujourd'hui, on le tient. Misérable. Quand tu penses tenir Jésus, tu es déjà tenu il y a longtemps, toi. Mais oui. Parce que quand notre maître agit, il s'adresse non seulement aux détracteurs qui sont présents, il va répondre à ce qui lui est dit, mais il va surtout agir pour répondre à l'esprit par lequel est animé celui qui pose la question. C'est-à-dire qu'il va à l'intérieur. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre lui. Puis, à nouveau, il fait la même chose, il soustrait son regard au leur, et le voici qui part. Vous verrez que Jésus n'a pas jugé, dit, condamnez-la, faites ceci, faites cela. Non, il s'est adressé aux détracteurs, à leur conscience, à leur esprit, à leur attitude. Vous savez ce qui s'est passé quand il est écrit par terre? Hop, voici que maintenant on entend un autre bruit, des pas qui se détournent. Pourquoi? Que s'est-il passé? Et tous, depuis le plus âgé jusque dernier, repris par leur conscience, se retirèrent jusqu'au dernier. Ça veut dire que la parole de Jésus qui a été donnée, ce qu'elle a fait, une parole de connaissance, une parole de sagesse, déshabille la conscience du détracteur. Il vous met à nu. Pourquoi, frères et sœurs en Christ? Parce que les accusateurs venaient de commettre deux péchés. L'espace d'un instant, ils ont commis deux péchés. Premier péché, la loi disait aussi adultère, l'homme et la femme seront lapidés. Ils ont amené un antagoniste. Deuxième péché, si elle avait commis un adultère, il était en état de souillure. La femme était souillée parce que c'est ce que la loi disait. Il ne fallait pas faire entrer quelqu'un de souillé dans la maison de l'Éternel, dans le temple de Dieu. Mais pour atteindre Jésus, ils ont transgressé la loi de Moïse. Ils étaient des transgresseurs. Ils pensaient que la femme avait transgressé par rapport à ce qui lui était reproché, mais eux, qui étaient aussi responsables, sinon plus que la femme, parce qu'eux avaient la connaissance de la loi. Mais pour atteindre Jésus, on a transgressé la loi. Ils ont eu une seule pensée, surprendre Jésus en flagrant délit de transgresseur de la loi. Jésus n'a pas suivi leur logique, mais il a donné une parole de sagesse qui a pour but d'atteindre la conscience et de montrer aux détracteurs qu'il n'est pas meilleur que les autres. Le seul meilleur, c'était lui, Jésus-Christ. Que tous, de la part de Dieu. Et voici sa parole après que tous les détracteurs soient partis. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Alors moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Absolvez. Et vous serez? Des fois, nous voulons que les autres nous pardonnent. Quand c'est nous qui sommes responsables, nous avons tellement de mal à pardonner les autres. Ah, je ne vais pas me laisser aller à vous dire comme cela, malheureusement, est la part et le lot de beaucoup d'entre nous. Je pardonne, mais c'est un classique. Mais du côté de Dieu, non seulement il nous a pardonné, mais il a oublié nos péchés. Mais bien aimé, le temps passe vite. J'ai au moins 5 points à vous donner dans le sujet. Vous avez remarqué que nous n'avons vu qu'un seul ce matin. Ça veut dire qu'il y a encore. Vous comptez bien, hein? Mais pour l'instant, prions le Seigneur, mes bien-aimés. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur et bénissons-le pour sa parole.